Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail et notamment de comment la connaissance de soi peut être utilisée pour mieux travailler en équipe. Aujourd'hui, je suis des indices qui m'ont été envoyés dans ma boîte aux lettres par les éditions Le Duc, un livre sur la communication non violente et un second sur l'énéagramme, et nous commençons avec l'énéagramme. Alors j'ai déjà fait un podcast sur le sujet il y a 3 semaines, mais je pense qu'on peut toujours apprendre plus et approfondir ces sujets. Donc nous allons retrouver Valérie Fobb-Corouzi pour parler de cette typologie, ces 9 types de personnalité, et essayer d'en comprendre un peu plus, parce que c'est un sujet qui revient souvent quand je discute, même au sein de l'entreprise, avec des dirigeants. C'est un outil qui semble très percutant pour ceux qui l'approchent. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, et votre hôte pour ce podcast, nous retrouvons tout de suite Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors bienvenue dans le podcast de Moodstep, nous allons parler de l'énéagramme et en quoi il nous permet de libérer notre potentiel. Mmh. Nous avons déjà traité ce sujet sur le podcast et en plus il n'y a pas très longtemps, donc on va voir ce qu'on peut découvrir en plus, approfondir, et peut-être on a tous des visions différentes même quand on a des outils similaires, donc je pense que ça va être intéressant. D'autant plus que récemment, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui était un grand adepte de l'énéagramme et qui formait les gens en interne à l'énéagramme. Mm-hmm. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Bien sûr. Tout d'abord, merci de venir vers moi et de m'offrir l'opportunité de m'exprimer, Johanna. Je suis coach spécialisée en leadership. Je m'appelle Valérie Fobb-Corouzi, on va peut-être commencer par là. Je suis à la fois hypnothérapeute, j'ai une maîtrise en PNL et en énéagramme, et j'accompagne des gens en individuel, j'aide dans des entreprises pour des formations de coaching en équipe, etc. Je m'intéresse également beaucoup à la méditation, qui pour moi, je crois beaucoup aux bienfaits qui sont inouïs sur la concentration, le calme intérieur, le bien-être, le sommeil. Ça paraît comme cela anodin, mais c'est juste primordial. Donc la méditation pour moi est vraiment un outil super important que j'utilise de plus en plus dans mes accompagnements individuels. Voilà,
Qu'est-ce qui fait que tu as choisi le sujet de l'énéagramme par rapport à la PNL ou l'hypnose pour publier chez Le Duc ce livre sur l'énéagramme ?
C'est une collègue que j'estime beaucoup qui m'a proposé cette aventure. En fait, elle savait que j'avais une maîtrise en énéagramme. Je crois que Le Duc avait envie de sortir un livre sur l'énéagramme. Ce n'est pas ma spécialité dans le sens où ce n'est pas la seule chose que je fais et je ne veux pas me voir comme la personne qui ne fait que de l'énéagramme. Mais c'est un domaine qui me fascine par sa richesse. C'est vraiment... Alors, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu un petit doute parce que je me suis dit, l'énéagramme, il y a tant de gens qui collent des étiquettes facilement.
Comme quelles étiquettes, tu as ?
Des étiquettes de dire, celui-là, il est un 3. Il aime toujours gagner, pour lui c'est important. Je l'ai même vu dans mes formations, c'est impressionnant, les gens qui collent vraiment des étiquettes. Et quand on m'a proposé ce livre qui se voulait tout de même un petit peu pratico-pratique, c'est quand même une collection malin, il a fallu que je réfléchisse. Ma première réaction donc, a été de réfléchir, et puis après, je me suis dit que j'allais relever le défi pour amener le lecteur de façon ludique, assez simple, etc., à s'intéresser à ces 9 profils de personnalité et voir ce qui se cache comme outil merveilleux derrière cette mécanique. Parce que c'est vraiment un outil merveilleux, une fois qu'on va un petit peu plus en profondeur, qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'il propose, à savoir se libérer des mécanismes de défense et à les mettre en lumière.
Il faut que j'arrête de commencer mes phrases par « du coup, ça m'énerve ».
Tout va bien.
Tu vois, par exemple, ça, je le monte, je l'enlève. Excuse-moi, du coup, ça va casser mon mode de pensée, mais donc comment on sort des étiquettes? Juste pour rappeler, donc l'énéagramme, c'est 9 profils, donc parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément et qui n'ont pas forcément écouté le précédent podcast sur le sujet. Donc ce sont 9 profils, et oui. tu parles de cette étiquette, donc comment on dépasse cette étiquette de « je suis le profil 1 », puisque chaque profil a un numéro, « je suis le profil 3 », comment on dépasse ça, cette vision un peu binaire de l'énéagramme?
Alors, en fait, donc l'énéagramme se présente comme un schéma géométrique, hein, donc un cercle avec 9 profils qui gravitent autour. Hein. Ces 9 profils sont en réalité des reflets de nos conditionnements face à nos peurs inconscientes, hein, qui se sont installés en nous au fil du temps, depuis l'enfance. D'accord ? Alors, dans notre enfance, nous avons pu avoir des perceptions de choses qu'on n'a pas comprises, qui nous ont blessés. Et petit à petit, via l'éducation, via ce que la vie va nous proposer comme événement, comme expérience, on va petit à petit développer notre personnalité. Cette personnalité va se construire pour nous protéger. Et on va construire une armure qui va nous éloigner de plus en plus de qui nous sommes vraiment. J'insiste vraiment, moi, dans mon livre, sur le fait que l'être et la personnalité sont deux choses complètement différentes. À savoir que notre être, c'est l'essentiel de qui nous sommes quand nous nous débarrassons de toutes nos peurs, nos conditionnements, des projections d'autrui sur nous-mêmes, etc. Et notre personnalité, c'est l'armure que nous avons petit à petit construite autour de cet être essentiel que nous sommes. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis.
Si, très claire. Maintenant, je me dis, en fait, ce que tu exprimes, c'est sortir. Parce que dans la personnalité, il y a des traits qu'on estime positifs et des traits qu'on estime négatifs. Sortir de sa base, puisque les numéros, hein, on appelle ça des bases, le 1, le 2, la personnalité 1, 2, 3, là je suis sur le 3, le gagnant. Par exemple, si je pense au gagnant, eh ben, il y a des aspects positifs à être un gagnant. C'est quelqu'un qui est, je suppose, dans l'action, charismatique, je ne saurais pas dire, puisque je ne connais pas assez l'énéagramme. Et là, en fait, dans ce que tu exprimes, c'est j'entends sortir de sa base, sortir de sa personnalité.
D'accord, se libérer de la caricature, se libérer de ce qui ne nous correspond pas. En fait, pour prendre le profil de base 3, effectivement, c'est une personne qui a peur d'échouer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est hyper entreprenant, il va jusqu'au bout de ce qu'il fait, il est plein d'énergie, il a une magnifique énergie positive, donc les gens vont avoir envie de le suivre, etc. Il attache beaucoup d'importance à son image parce qu'il est un petit peu un, j'aime pas caricaturer à ce point-là, mais il est un peu un produit marketing, c'est-à-dire qu'il est, il est vraiment la personne qu'on a envie de suivre, qui change l'énergie d'une pièce, qui est hyper engagé dans ce qu'il fait et qui va jusqu'au bout, d'accord, et qui propulse une énergie. Donc super, super positif. Mais derrière ça, il y a quoi? Il y a quelqu'un qui ne se connecte pas à qui il est vraiment, parce qu'il est dans le faire au lieu d'être dans l'être, d'accord. Donc pourquoi il est toujours dans l'action? Parce qu'il a peur de se poser, pour se poser les questions de savoir qu'est-ce qui se joue en lui, quelles sont ses fragilités et qu'est-ce qui se passerait s'il échouait. Vous voyez? En fait, ça va être quelqu'un qui va avoir un rapport au temps très particulier. Il n'aime pas gaspiller son temps. Il n'aime pas se poser. Ça ne va pas être quelqu'un que je vais réussir à faire méditer, par exemple. Vous voyez? Ouais. Donc, effectivement, on a toujours les qualités de nos défauts. Mais ce qui est intéressant, c'est pour une personne d'un profil type, donc effectivement, on a 9 profils sur des bases, etc., qui sont plus ou moins épanouis, donc plus ou moins caricaturaux dans leur mécanisme, parce que moins on est OK, plus on va aller dans nos mécanismes de défense, plus ceux-ci vont s'accentuer, d'accord ? Mais quelqu'un d'épanoui, effectivement, va réussir à utiliser les belles qualités qu'il a et se poser les questions de savoir qui il est vraiment, quels sont ses doutes, qu'est-ce qu'il a peur de lâcher? Qu'est-ce qui se passerait s'il se connectait complètement à par exemple, on prend le profil 8, c'est quelque chose.
Ouais, parce qu'ils ont aussi des,
Voilà.
des mots qui peuvent. Le profil 8, je le cherche en même temps.
Chef,
C'est
celui.
le commandant de bord.
C'est le commandant de bord, on est avec contre lui. C'est-à-dire qu'il a une vision assez duelle des choses. Il adore protéger son environnement, ceux qui le suivent, mais il va contrôler l'espace. D'accord? C'est un instinctif. C'est un instinctif puissant. Donc, magnifique énergie, on en a besoin. On a besoin de tous les profils de toute façon. D'accord? Tous ces profils sont des facettes de ce qui peut se jouer à l'intérieur de chacun d'entre nous. D'accord?
Oui.
C'est un kaléidoscope magnifique et l'idéal serait d'avoir un peu tout ça. Ok? Mais pour avoir un petit peu tout ça, il faut se libérer du fait qu'on ne peut être qu'une seule chose et se limiter. D'accord? Moi, j'aime beaucoup l'idée dont vous parlez d'entreprise, etc. Dans une entreprise, si on embauche toujours le même profil, on va avoir du mal. Je donne toujours un exemple, un hôtel. Si vous embauchez quelqu'un pour créer un concept d'hôtel original, vous allez peut-être de préférence choisir quelqu'un qui a un mécanisme en 7. Pourquoi? Parce que celui-là, ça va être un rêveur. Il va avoir des concepts, des idées. Il va être super créatif. Il va aller à la rencontre des gens. Il va convaincre, etc. OK? Donc, génial. Vous allez peut-être pouvoir aussi avoir quelqu'un qui fait un peu du 4, qui est dans le côté artistique, dans la mode, dans les idées, etc. Mais pour après tenir l'hôtel, pour après vérifier que tout se passe bien, que les équipes soient nickel, que les détails soient parfaits, que les verres soient propres, que le client soit bien servi, vous allez peut-être songer à quelqu'un qui fait du 1.
Donc ça veut dire que là, en choisissant des gens selon leur profil sur des postes particuliers, on les enferme aussi dans leur base. Alors que ce que j'ai compris juste avant, c'est peut-être que le but de l'énéagramme, c'est comprendre dans quelle base on s'est enfermé pour se libérer bah, des peurs qui sont associées, de pourquoi on a construit ce personnage, et ensuite être un peu de tout ça. Donc l'utilisation de l'énéagramme, j'en entends deux là, c'est celle de comprendre qui est quel type pour dispatcher les gens en fonction de leurs forces, et une autre qui est utiliser l'énéagramme pour se libérer complètement de ses profils.
Non, complètement. Mon utilisation, moi, c'est se libérer complètement des profils. Là où j'ai peut-être pas été claire, ce que je voulais dire, c'est que on est tout ça. On a tous les profils en nous. Dans une entreprise, l'idéal serait d'avoir, je fais un parallèle entre l'entreprise et nous, notre personnalité. C'est comme il est idéal d'avoir toutes les
D'accord,
quelque
d'accord.
part, il serait idéal de comprendre qu'on a toutes les facettes en nous et qu'on peut jongler au fur et à mesure des événements de la vie et de ce qui nous est proposé, danser, si vous voulez, avec tel type de personnalité, telle facette, etc. Et qu'il n'est pas bon de stigmatiser quelqu'un quelque part, même si on a une base préférentielle en fonction de nos angoisses du moment, de notre peur de lâcher quelque chose. Bon, le profil 8, pour revenir à lui, c'est sa peur de la vulnérabilité qui va être tout en force pour cacher le fait qu'il a juste peur de montrer qu'il est un être en fait vulnérable, que petit, il a peut-être souffert de cette vulnérabilité. Il ne veut plus jamais avoir à connecter cela. Voyez? Donc il va changer en se créant une super armure de moi, vous ne m'aurez pas. Moi, je suis hyper puissant.
Vous parlez de, il y a trois grands centres en fait. Les neuf profils sont divisés en 3 x 3 profils, un centre mental, instinctif et émotionnel. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Bien sûr, en fait, le centre instinctif, il réagit avec ses tripes.
Donc eux, ça va être le 1, le 8 et le 9. On a le perfectionniste, le commandant de bord dont on vient de parler, et le 9, parce que moi je suis armée de mon petit livre, le pacifiste.
Le pacifiste,
Donc
exactement.
eux, ce sont les instinctifs.
Ce sont les instinctifs. Leur dénominateur commun, c'est qu'ils gèrent la colère. tous les trois. Ce sont en fait trois profils qui ont...
Leur colère ?
Leur colère.
À eux, pas la colère des autres.
Non, leur colère à eux. Ah, alors en fait, le profil 8, il explose, sa colère est là.
C'est le commandant de bord, oui.
Exprimé, voilà. Donc, il peut avoir des pulsions colériques, hein, tout à coup, qu'il exprime librement en fonction de ce qu'il ressent. Le profil 9, eh bien, il va...
Le pacifiste.
Le pacifiste, il va complètement la réprimer parce qu'il ne veut absolument pas de tension. Il ne veut pas de conflit. Donc, il va complètement l'avaler en lui et il ne va absolument pas l'exprimer. D'accord ? Parce qu'il ne veut pas faire l'histoire. Et le perfectionniste, il va le nier, parce que ça serait quand même pas très joli d'admettre qu'il puisse se mettre en colère. Il a une image de perfection, il nie complètement le fait qu'il puisse se mettre en colère. Donc vous voyez, c'est déjà trois façons de gérer la colère.
Ah, c'est marrant. Parce que le mental, lui, il est en recherche de sécurité, c'est ça ?
Le mental, lui, il va y avoir une recherche de sécurité. Alors, le profil 6, donc, il va...
Parce que c'est dur, quand on ne connaît pas les numéros, les mots, le loyal, en fait.
Le loyal, en fait, lui, il va observer tout ce qui se passe dans son environnement pour être sûr qu'il est en sécurité. Donc, il va surmentaliser... Tout le contexte dans lequel il se trouve, pour être sûr qu'il n'y ait pas une perte d'équilibre dans un groupe, dans un organisme, dans sa vie privée, dans sa famille, auprès de ses amis. Vous voyez, il est très attentif. Ça va être la personne, si vous partez en vacances avec lui, si un groupe d'amis part en vacances, à la dernière minute, l'un d'entre eux décide de venir avec sa petite amie, ça va être celui qui va dire « Ah, mais ça, je la connais pas, mais elle est comment ? Mais elle va pas nous... Elle va bien s'adapter, elle va se lever tôt le matin, est-ce que... » Vous voyez, ça va être ça. Parce qu'il a peur de perdre sa sécurité.
Et si on prend le cas de l'optimiste, par exemple, en 7, qui lui alors, aussi est un dans le centre mental.
Bien sûr, alors lui, il est dans la planification permanente pour éviter d'avoir à se poser et de ressentir sa blessure éventuelle. Il a peur d'être enfermé, il a peur de perdre toute forme de liberté, il a besoin de se sentir libre, mais il confond sa liberté d'être... et sa liberté d'action. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer son temps à planifier dans l'agenda 36 millions de choses, 36 millions de programmes, des déjeuners, des rendez-vous, pour voir plein de monde, il mentalise sa vie, c'est-à-dire il passe son temps à la programmer.
C'est marrant parce qu'on n'imagine pas l'optimiste dans le centre mental à côté de la base 5 qui est l'expert et là où on le voit bien mental, l'expert. Et lui alors, c'est quoi sa manière de gérer cette sécurité ?
Il a besoin de... C'est quelqu'un que vous n'allez pas réussir à envahir. Dans le monde professionnel, c'est celui qui va demander à avoir son petit bureau à lui, son petit espace à lui, parce qu'il a besoin de comprendre, il a besoin de réfléchir. Ne lui faites surtout pas une déclaration d'amour, il ne saurait pas quoi en faire. Il a besoin de dire « Ah, ok, il reviendra vers vous 24 heures plus tard », une fois qu'il aura mentalisé tout ça et compris comment cela le touche. Puisqu'il est complètement... il s'est tellement protégé qu'il ne veut pas que vous le touchiez. Donc il a besoin de comprendre tout ce qui se passe en lui et tout ce qui se passe autour de lui. Ça va être la personne dans un groupe qui va être tout petit peu en retrait ou un petit peu plus silencieuse que les autres. Il ne va pas être très tactile. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Et il a besoin toujours de pouvoir analyser les choses, que ce soit les choses de la vie ou que ce soit ce qui se joue en lui.
Donc, on est lancé là avec les centres. Donc, le centre instinctif, c'était le ventre, les tripes, le centre mental, la tête. Et il en reste il y en a un troisième qui est le cœur, c'est le centre émotionnel, la recherche d'identité. Et là, on a le 2, le 3 et le 4. Et je me dirige tout de suite vers le 2 qui est l'altruiste.
Alors, l'altruiste, lui, il a une peur monstrueuse, fondamentale d'être abandonné. D'être rejeté. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a besoin d'être aimé. Il ne veut surtout pas qu'on l'oublie. Donc, il ne vit ses relations que à travers ses émotions. Tout va être émotionnel chez lui et il va s'arranger pour être indispensable, que les gens pensent à lui, que les gens l'aiment, que les gens le trouvent extraordinaire. Ça va être le papa poule, ça va être l'ami sur qui vous pouvez compter, qui sera toujours aux petits soins. Et en fait, ça cache une forme d'orgueil et une peur. En fait, ça paraît super altruiste et ce l'est, mais au fin fond, la personne aurait peut-être intérêt à comprendre qu'elle a peur de ses... elle a peur d'être abandonnée. En fait, elle est fragile et elle a besoin qu'on l'aime, tout simplement.
Ce qui est un peu le même mécanisme que le gagnant, mais lui tout dans l'extraversion et le charisme.
Oui, c'est qu'il a tellement peur de toucher à ses émotions qu'en fait, il va les noyer dans l'action. Et il va se créer une carapace de l'homme à tout faire, l'homme qui
Le battant.
réussit, le battant, l'image. Parce que quand on est dans l'image, on n'est pas dans l'émotion. Ça va être souvent quelqu'un qui va mélanger sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il sait pas quoi faire avec le personnel.
Et on finit avec la base 4 qui est l'original.
Alors l'original, lui, il adore au contraire. Pour lui, l'émotionnel, c'est ce qu'il fait vivre. S'il n'y a pas d'émotionnel, pour lui, la vie est banale. Il faut que la vie soit exceptionnelle. Donc il a besoin de profondeur, de vibration, de se sentir touché. S'il ne se sent pas touché, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe en lui de fort, de profond, c'est d'une banalité, c'est d'une médiocrité. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des artistes, qu'on retrouve souvent des paroliers, des gens qui s'habillent de façon tout à fait exceptionnelle ou qui vont choisir d'aller voir une pièce à laquelle personne ne penserait parce qu'ils ont besoin de se sentir unique, que tout soit spécial, que tout soit touchant. Vous voyez ce type de profil un peu original? Donc voilà.
Et en fait, il y a une dimension aussi plus profonde dans l'énéagramme parce que là, on se dit 9 profils. Bon, déjà, il faut que ça couvre tous les aspects de nos personnalités. Mais il y a ce qu'on appelle les ailes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est que ça, une aile par rapport au profil?
Ça va être ça va être notre base, donc celle qui se trouve juste à droite ou juste à gauche, que l'on va développer à un moment donné dans notre vie, d'accord, et qui donc va teinter notre base des aspects positifs ou des choses à travailler de la base voisinante, d'accord?
Donc si je suis un 4, c'est entre le 3 et le 5 par exemple, j'ai une aile en 3 et j'ai une aile en 5, c'est ça?
Vous avez de toute façon une aile principale que vous développez à un moment donné dans votre vie, d'accord?
Mais qui
Et
est
puis,
forcément le 5 ou le 3, dans
qui
ce
est
cas-là.
forcément le 5 ou le
D'accord.
3.
Donc il y en a une qui est prépondérante par rapport à l'autre.
Voilà. Et
Ok.
puis après, au fur et à mesure, probablement à l'âge adulte, vous allez commencer éventuellement à développer l'aile qui se trouve de l'autre côté. Vous allez par exemple reconnaître, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, dans le profil 8, donc le commandant, eh bien, quand il va avoir une belle aile en neuf, il va avoir un côté plus rond, plus protecteur, un
Sachant que
peu.
le neuf, c'est le pacifiste.
Voilà, il va avoir un côté plus. On va l'appeler le nounours,
Un
l'ours,
peu
celui qui
paternaliste,
voudra
peut-être.
pas, la personne qui va vouloir protéger, qui protège son clan, qui veut qu'il y ait de l'harmonie dans son clan et qui justement va utiliser sa belle puissance et sa belle force pour veiller à ce que cet équilibre-là, cette harmonie-là ne soit pas abîmée. Vous voyez? Alors s'il a plutôt une aile en 7, ça va être la personne qui va être à la fois très puissante et très comment dire, très charismatique, qui va rentrer dans une pièce et qui va diffuser une énergie incroyable, qui va aimer être libre, qui va pas aimer trop d'attachements qui pourraient nuire à son besoin de contrôler l'espace. Vous voyez?
Donc ça, c'est parce que l'aile 7, c'est l'optimiste. Mais du coup, vous avez dit que donc on en a une prépondérante et que au cours de la vie, ça s'équilibre avec l'autre. Comment on devient et épris de liberté optimiste et pacifiste plus paternaliste.
En fait, on dit toujours qu'on acquiert une certaine sagesse avec l'âge. Je pense que une fois qu'on comprend que l'essentiel, le but ultime de cet outil est de comprendre qu'on peut avoir toutes ces facettes, toutes ces bases, toutes ces tendances, etc., mais que l'idéal est de s'en libérer, de se libérer de ces mécanismes, de ces peurs, de ne pas s'identifier. En fait, il est vraiment important dans la vie de ne pas s'identifier. Moi, si vraiment vous me demandez mon postulat, ne vous identifiez pas. Ne vous identifiez ni à ce que les autres pensent de vous, ni à ce que vous croyez être, parce que ce sont vos peurs et votre ego qui dirigent cette pensée, ni au profil en tant que tel. Voyez ces profils comme des indicateurs, comme des portes d'évolution, comme des fenêtres qui s'ouvrent à un moment donné et qui mettent la lumière sur des conditionnements, sur des tendances, sur des attachements, sur des peurs. Et ouvrez cette fenêtre et laissez quelque chose d'autre immerger. Laissez la possibilité au mouvement. Dansez avec les différents profils. Acceptez d'être autre chose. Vraiment, pour moi, quand on fait de la PNL, quand on fait de l'énéagramme, quand on fait de l'hypnose et qu'on va au-delà de la partie technicienne ou praticienne et qu'on va dans ce qu'on appelle la maîtrise, on se rend compte qu'il y a toujours une part plus philosophique, il y en a qui appellent ça spirituel, il y en a qui parlent, mais ce sont toutes des portes d'ouverture. Quand on parle de la PNL, on parle des différentes parties qui sont en nous. On parle de la même chose. Les parties qui sont en nous en PNL, il y a un outil en PNL qui s'appelle la négociation entre parties. C'est quoi? C'est en fait aller chercher la femme en nous, la mère en nous, la fille en nous, la businesswoman en nous, et les faire dialoguer entre elles et comprendre quel serait le besoin commun entre toutes ces parties et comment les harmoniser entre elles pour pouvoir s'aligner sur qui on est. Et bien, si on réfléchit, on est en train de travailler sur la même chose que l'énéagramme. C'est-à-dire aller chercher quels sont les mécanismes, aller chercher quels sont les besoins, quelles sont les peurs des différentes facettes qui se trouvent en nous, possibles, pour pouvoir comprendre au cœur du cœur, au centre qui nous sommes, et tout ramener au centre de qui nous sommes pour pouvoir nous aligner et être dans notre verticalité.
Fabuleuse conclusion. On a dépassé le temps, donc je vous propose de passer au questionnaire qui est commun à toutes les interviews. Avec la toute première question qui est-ce que vous avez eu un échec dans votre vie qui vous aurait appris beaucoup, un échec personnel ou professionnel qui vous a enrichi?
Oui, en fait, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans la presse, je suis condénaste. J'ai travaillé un petit peu au CNIC, la Défense, etc. Et pour des raisons X ou Y, au bout d'un moment, ça n'a pas marché. J'ai arrêté. Et in fine, je me dis que la vie est bien faite parce que ça m'a permis de me poser, de comprendre la femme que j'étais, de comprendre mes frustrations, de comprendre qu'en fait, je n'avais pas envie de travailler dans la presse, mais que j'avais envie d'être psy et thérapeute, etc. Et je pense que pour pouvoir expliquer aux autres qui ils sont, il faut déjà comprendre qui on est nous-mêmes.
Alors, la deuxième question, quelle technique ou outil vous avez fait plus avancer personnellement ou professionnellement?
Alors, pour rester logique avec ce que j'ai dit auparavant, il n'y a pas un outil en particulier. J'ai commencé par le coaching, je me suis dit waouh, génial, j'ai fait 3 ans de coaching. Puis après, pour une raison X ou Y, je me suis intéressée à l'hypnose. Waouh, génial, super, etc. Tous les outils ont une raison d'être. Je dirais que c'est l'ensemble de ces outils qui font que je peux accompagner les personnes qui viennent me voir de façon globale. En allant chercher une note à droite, une note à gauche, telle façon de travailler pour telle personne, parce que toutes les personnes sont différentes et ont des besoins différents. Et donc, j'aime bien l'idée d'être créative avec tout un panel d'outils différents.
Très bien. Maintenant, quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Pour être un bon manager, je dirais qu'il faut avant tout pouvoir inspirer. Inspirer les personnes qui travaillent pour vous. Et pour inspirer les personnes qui travaillent pour vous, bon, déjà, il faut être dans le leadership, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut être à la fois, pour moi, créatif, curieux, parce que si on n'est pas curieux de ce que les autres font et de ce que les autres sont, on vit un petit peu on a une vision fermée, donc ce n'est pas bon. Il faut avoir une vision élargie et ouverte. Il faut être courageux parce qu'il faut donner des impulsions. Il faut être empathique parce qu'il faut pouvoir ressentir ce qui se passe dans une pièce, sentir l'espace. Donc ça parle d'intelligence émotionnelle aussi. Beaucoup d'intelligence émotionnelle.
Question suivante. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué, que vous pourriez nous conseiller à la lecture?
Moi, personnellement, en général, pour être un manager ou en général?
En fait, je fais peu de... Pour moi, il n'y a pas vraiment de frontière entre le personnel et le professionnel. J'ai le sentiment qu'on peut lire un très bon roman et que ça nous inspire professionnellement. Donc,
Complètement. J'ai envie de vous parler d'un truc aussi curieux que les quatre accords toltèques. Et voilà. Parce que moi, personnellement, je l'utilise tous les jours. Et quand je vais faire des séminaires en entreprise, même chez des ingénieurs dans des groupes aéronautiques français, sans les citer, je parle toujours de la parole impeccable. Je parle toujours de faire du mieux qu'on peut. Je parle surtout de ne pas faire de présuppositions quand on travaille en équipe. De ne pas en faire une affaire personnelle. Je pense que ce sont vraiment, ça a l'air léger, mais ce ne l'est pas. Ce sont vraiment des postulats d'une importance incroyable. J'aime aussi beaucoup les livres qui parlent de communication non violente et d'intelligence émotionnelle. Et je pense également que lire un bon livre sur l'art du feedback n'est pas inutile dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent feedback et jugement, opinion, conseil. Alors qu'un feedback ne devrait juste permettre une piste d'amélioration.
Dernière question, y a-t-il une citation qui vous inspire?
Alors, j'aime beaucoup la citation Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Parce que pour moi, la vie est un chemin fait de rencontres, fait de joies et d'épreuves. Et que le jour où on comprend qu'une épreuve n'est qu'une opportunité de changement, on a tout compris.
Eh bien, on va conclure cette interview par cette citation. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Déjà, on peut rappeler votre livre, L'Ennéagramme, 9 profils pour mieux vous connaître chez Le Duc.
Oui.
Sinon, vous avez un site internet, comment est-ce qu'on peut vous joindre?
Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site www.values, en anglais, and change, donc valeur et changement, values and change-coaching.com. D'accord? Sinon, si vous tapez mon nom, Valérie Fogg-Corusi, sur Internet, vous me retrouverez facilement. J'ai toutes mes coordonnées, adresse mail, etc., qui sont accessibles sur le net, sur mon site.
Eh bien, merci beaucoup. Je mettrai toutes ces informations dans la description du podcast sur iTunes, SoundCloud et le blog Moodstep. Merci beaucoup parce que c'était très éclairant. Je crois que par rapport à l'autre podcast, on l'a abordé d'une façon différente. Donc, j'ai continué à apprendre et c'est ce qui pour moi est le plus important. Donc, merci pour votre temps. Merci d'avoir partagé vos connaissances. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
De continuer à cheminer, de continuer à découvrir et de toujours rester curieuse.
Bah voilà. Bah alors, je vous souhaite tout ça. Merci beaucoup.
Merci à vous, Jonah. À bientôt. Au revoir.
Et merci à vous tous qui écoutez ce podcast. Et merci de vous être accrochés parce qu'il y a eu quelques problèmes de son lors de cet enregistrement. Donc merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Une bonne semaine!